Je propose de lire dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, au chapitre 20. Et Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toutes ses forces. Et il y avait 32 rois avec lui, et des chevaux et des chars. Et il monta et assiégea Samarie, et il fit la guerre. Et il envoya des messagers à Akab, roi d'Israël, dans la ville, et lui dit, « Ainsi dit Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, et tes femmes et tes fils, les plus beaux, sont à moi. » Et le roi d'Israël répondit et dit, « Selon ta parole au roi, mon seigneur, je suis à toi, moi et tout ce que j'ai. » Et les messagers revinrent et dirent, « Ainsi a parlé Ben-Hadad, disant, « Je t'ai envoyé dire, en effet, tu me donneras ton argent et ton or, et tes femmes et tes fils, mais demain à cette heure, j'enverrai mes serviteurs vers toi, et ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, et ils mettront dans leurs mains tout ce qui est désirable à tes yeux, et l'emporteront. » Et le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit, « Sachez, je vous prie, et voyez comment cet homme cherche du mal. » Car il est envoyé vers moi pour mes femmes et pour mes fils et pour mon argent et pour mon or, et je ne lui ai rien refusé. Et tous les anciens et tout le peuple lui dirent, ne l'écoute pas et ne consens pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites au roi mon seigneur, tout ce que tu as mandé à ton serviteur, la première fois je le ferai, mais cette chose-ci, je ne puis le faire. Et les messagers s'en allèrent et lui rapportèrent cela. Et Ben-Hadad envoya vers lui et dit, « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux des mains de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit et dit, « Dites-lui que celui qui se ceint ne se vante pas comme celui qui délie sa ceinture. » Et il arriva lorsque Ben-Hadad entendit cette parole, il était à boire, lui et les rois, dans les tentes. Et il dit à ses serviteurs, « Placez-vous. » Et ils se rangèrent contre la ville. Et voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit, « Ainsi dit l'Éternel, vois-tu cette grande multitude? Voici, je l'ai livrée aujourd'hui en ta main, et tu sauras que moi je suis l'Éternel. » Et Akab dit, « Par qui ? » Et il dit, « Ainsi dit l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Et il dit, « Qui engagera le combat ? » Et il dit, « Toi. » Et il dénombra les serviteurs des chefs des provinces, et ils étaient 232. Et après eux, il dénombra tout le peuple, tous les fils d'Israël, 7000 hommes. Et ils sortirent à midi, et Ben-Hadad buvait, s'enivrant dans les tentes, lui et les rois, 32 rois qui l'aidaient. Et les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Et Ben-Hadad envoya, et on lui rapporta, disant, « Des hommes sont sortis de Samarie. » Et il dit, « S'ils sont sortis pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sont sortis pour la guerre, saisissez-les vivants. » Et ces serviteurs des chefs des provinces sortirent de la ville, ainsi que l'armée qui les suivait. Et ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens s'enfuirent. Et Israël les poursuivit, et Ben-Hadad, roi de Syrie, échappa sur un cheval avec des cavaliers. Et le roi d'Israël sortit et frappa les chevaux et les chars, et il infligea aux Syriens une grande défaite. Et le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, et sache et vois ce que tu dois faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Et les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, « Leurs dieux sont des dieux de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais si nous les combattons dans la plaine, certainement nous serons plus forts qu'eux. Et fais ainsi, ôte les rois chacun de sa place et mets en leur lieu des capitaines. Et toi, dénombre-toi une armée comme l'armée que tu as perdue, et cheval pour cheval et char pour char, et nous nous battrons avec eux dans la plaine. Certainement, nous serons plus forts qu'eux. » Et il écouta leur voix, et il fit ainsi. Et il arriva qu'au retour de l'année, Ben-Hadad dénombra les Syriens et monta à Aphek pour faire la guerre contre Israël. Et les fils d'Israël furent dénombrés et approvisionnés. Et les fils d'Israël allèrent à leur rencontre, et ils campèrent vis-à-vis d'eux comme deux petits troupeaux de chèvres, et les Syriens remplissaient le pays. Et l'homme de Dieu s'approcha et parla au roi d'Israël et dit, « Ainsi dit l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu de montagne et pas un Dieu de plaine, je livrerai toute cette grande multitude en ta main, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et ils campèrent ceux-ci vis-à-vis de ceux-là 7 jours. Et il arriva le 7e jour que le combat se livra. Et les fils d'Israël frappèrent les Syriens, 100 000 hommes à pied, en un seul jour. Et le reste s'enfuit à Aphek, dans la ville. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes de ceux qui restaient. Et Ben-Hadad s'enfuit et entra dans la ville, d'une chambre dans l'autre. Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons entendu dire que les rois de la maison d'Israël sont des rois doux et cléments. Mettons, je te prie, des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et sortons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il laissera vivre ton âme. » Et ils saignirent des sacs leurs reins et mirent des cordes à leurs têtes et s'en vinrent vers le roi d'Israël. Et ils dirent, « Ton serviteur, Ben-Hadad, dit, je te prie, laisse vivre mon âme. » Et il dit, « Vit-il encore ? Il est mon frère. » Et les hommes en augurèrent du bien et se hâtèrent de saisir ce qui venait de lui. Et ils dirent, « Ton frère, Ben-Hadad. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Et Ben-Hadad sortit vers lui et il le fit monter sur son char. Et Ben-Hadad lui dit, « Les villes que mon père a prises de ton père, je les rends, et tu feras pour toi des rues à Damas, comme mon père en a fait à Samarie. Et moi, dit Akab, je te renverrai vers cette alliance. » Et il fit une alliance avec lui et le renvoya. Et un homme d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon par la parole de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme refusa de le frapper. Et il lui dit, « Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici, quand tu sortiras d'auprès de moi, le lion te tuera. » Et il sortit d'auprès de lui, et le lion le trouva et le tua. Et il trouva un autre homme, et lui dit, « Frappe-moi, je te prie. » Et l'homme le frappa fort et le blessa. Et le prophète s'en alla, et se tint sur le chemin du roi, et se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Et comme le roi passait, il cria au roi et dit, « Ton serviteur était sorti du milieu de la bataille, et voici un homme se détourna et m'amena un homme et dit, « Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie sera à la place de sa vie, où tu ne pèseras un talent d'argent. » Et comme ton serviteur était occupé ça et là, l'homme a disparu. Et le roi d'Israël lui dit, « Ainsi est ton jugement, tu en as décidé. » Et il ôta avec hâte le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël reconnut pour l'un des prophètes, et lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre tes mains l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera pour sa vie, et ton peuple pour son peuple. » Et le roi d'Israël alla en sa maison, triste et irrité, et il vint à Samarie. Voilà un long chapitre avec énormément d'instructions pratiques. Nous n'en avons retiré que quelques-unes. Il y a ici donc le roi de Syrie, qui s'appelle Ben-Hadad, qui vient en guerre contre le roi des 10 tribus d'Israël, dont la capitale est Samarie. Il s'adresse au roi Akab. Le roi Akab n'est pas un roi fidèle à Dieu. Il est même peut-être un des pires qu'on trouve dans la parole de Dieu, avec sa femme Jézabel. Il ne tient pas compte de ce que Dieu dit ou de ce que Dieu attend de lui. C'est un roi mondain, tourné vers les choses de la terre. Et puis voilà ce roi, ce Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble toutes ses forces. C'est pas peu. Parce qu'on voit qu'il est accompagné de 32 rois. 32 rois, 33 au total, qui viennent se présenter contre Akab. Il a ses exigences, parce que quand on fait une alliance avec le monde, et là je parle d'un point de vue même spirituel pour nous aujourd'hui, si nous faisons partie du peuple de Dieu, mais que nous avons nos pensées et notre vie impliquées avec les choses du monde, d'abord, le monde va exiger toujours plus. Le monde veut tout dans la vie d'un homme, d'une femme, et même si c'est un chrétien, on va dire aujourd'hui, un chrétien mondain, devra donner tout au monde, parce que le monde va exiger. Et si on ne donne pas, le monde va menacer pour qu'on donne. Il exige de donner tout ce qu'il y a de mieux. Et puis, voilà, ce roi, il accepte, il le dit même, tout ce qui est à moi est à toi, au départ. C'est un état d'esprit, un état spirituel très, très piteux pour un roi d'Israël, pour quelqu'un qui a la responsabilité de diriger le peuple de Dieu, en principe. Mais quand il s'agit de donner ce qui est dans sa propre maison, qui lui appartient et qui plaît à ses yeux, des objets, des choses du monde, il n'est plus tout à fait d'accord. Il n'est plus tout à fait d'accord, alors il demande conseil, et puis on voit que les hommes qui lui donnent conseil là, autour de lui, dans le peuple d'Israël, lui disent non, il ne faut pas consentir à tout donner, il ne faut pas donner tout ce que tu as. Et puis on voit un prophète, à partir du verset 13, un prophète s'approche d'Akab. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui donne la parole de Dieu. Il dit ce qui est juste, ce qui vient de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, tu vois cette grande multitude, toute cette multitude d'ennemis qui est là, qui vient de Syrie et tous ces autres rois, eh bien moi, je vais les vaincre. Et c'est magnifique comment Dieu ne propose et donne une victoire à un homme qui n'est pas fidèle. Ça, c'est la grâce. Mais en donnant cette victoire, voilà un homme qui est censé être fidèle à Dieu, mais qui ne l'est pas, qui est clairement mondain, qui a ses pensées aux choses du monde. Et Dieu donne et promet une victoire contre le monde. C'est comme si Dieu donnait une possibilité de sortir de cette mondanité, de cette emprise du monde. Et Dieu dit, il ne dit pas à cause de ta fidélité, parce que tu es fidèle, je vais te délivrer. Il dit voici, je l'ai livré aujourd'hui en ta main et tu sauras que moi je suis l'Éternel. C'est comme Dieu dit, je vais te donner une victoire, même si tu ne la mérites pas. Comme ça, tu comprendras qui je suis et tu pourras revenir à moi. Je te donne une possibilité de te détourner du monde et de te tourner vers moi. Et Akab dit, bah, par qui ? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut vaincre ? Il ne connaît pas Dieu, en fait. Et puis, il a une autre question encore. Il dit, qui engagera le combat ? Akab, pourtant, c'est le roi, c'est le chef des armées. C'est le chef de l'armée de son pays, mais il n'a pas l'intention d'engager le combat. Il est en retrait, il est passif. Et Dieu dit, mais toi, tu vas engager le combat. Et voilà comment Dieu peut opérer parfois. Et disons maintenant, pour nous-mêmes, qui sommes chrétiens aujourd'hui, il se peut que dans notre vie, nous soyons parfois mondains. Et quand on comprend que le monde en demande trop, Dieu peut nous donner des victoires. Non pas parce que nous avons été fidèles jusque-là, mais parce que Dieu nous donne une possibilité de nous dégager de cette emprise du monde. Et puis Dieu donne la victoire. Ils sortirent et Dieu donne la victoire contre ce roi et contre tous ces rois. Alors, devant l'Éternel, personne ne peut tenir. Et puis, Le prophète s'approcha du roi après la victoire et il lui dit « Va, fortifie-toi, parce que ce n'est pas fini. » Le prophète, donc, qui parle de la part de Dieu, prévient que voilà, cette victoire a été remportée par Dieu pour ton bénéfice, mais ça va revenir, parce que l'ennemi n'abandonne pas si facilement. Et nos victoires contre le monde, ou contre notre amour pour le monde, notre tendance, eh bien, ça peut revenir. Et en effet, le roi Ben-Hadad va revenir avec ses armées. Et ce que j'aimerais relever ici, c'est que ce roi, c'est un idolâtre. Il ne connaît pas Dieu, d'ailleurs, il parle de Dieu au pluriel. Et il parle de Dieu local, puisqu'il dit, ils disent en fait, ces hommes, ces païens, ils disent, bah, ils ont gagné, mais c'est parce que on les a approchés sur des lieux élevés, à la montagne, et c'est un dieu de montagne. C'est un dieu de montagne, alors on n'avait aucune chance. Mais si on les attaque dans la plaine, là on va les vaincre. Réfléchissons un peu à ces montagnes, à ce contexte. Si on lit deux chapitres auparavant, le roi Achab, il avait été témoin d'une scène spectaculaire. Il y avait le prophète Élie qui était monté sur le mont Carmel. Et il y avait aussi les 450 prophètes de Baal, idolâtres. Et c'était sur une montagne, sur un lieu élevé. Et il avait vu qu'en effet, que l'Éternel avait remporté une grande victoire. L'Éternel avait fait descendre le feu du ciel sur le sacrifice, l'offrande que Élie avait apportée, alors que les prophètes de Baal avaient tourné en rond, chanté, dansé, pour rien. Et pour finir, Élie avait fait mettre à mort tous ses prophètes de Baal. Voilà une victoire de ce Dieu des montagnes. Et oui, Dieu est un Dieu de montagnes, mais pas uniquement. Si nous prenons un point de vue spirituel, pour nous, nous obtenons des victoires spirituelles lorsque nous sommes proches de Dieu sur la montagne. Nous montons d'un point de vue spirituel sur des montagnes lorsque, à l'heure de la réunion par exemple, où nous voyons Dieu de plus près, où nous sommes à l'écart du monde. Et voilà, ces montagnes nous font voir et découvrir comment Dieu agit et aussi qui il est dans son caractère. Il y a des montagnes dans la parole de Dieu, c'est très instructif. Vous voyez, il y a le mont Pisga, où on peut voir l'ampleur du pays promis, on peut voir loin, on voit l'horizon, on peut se rendre compte de la réalité des promesses de Dieu. Il y a la montagne de la Transfiguration dans le Nouveau Testament, où, comme disciples du Seigneur, nous voyons le Seigneur qui est incomparable, dont le visage resplendit dans sa force, et nous ne voyons que Jésus seul. Et nous entendons la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Voilà des moments forts dans la vie spirituelle. Et puis aussi, si nous allons même dans l'Apocalypse, nous montons et nous voyons la sainte cité, l'état éternel, résultat de la victoire du Seigneur Jésus et de Dieu pour l'éternité. Et voilà, nous sommes appelés et invités à monter à la rencontre de Dieu. Et cela nous assure des victoires spirituelles. Mais qu'en est-il des plaines? Qu'en est-il de notre état spirituel et de nos combats entre les réunions, entre les moments de communion dédiés avec le Seigneur? Lorsque nous redescendons de la montagne et que nous passons quelques jours dans ce monde, entourés par toutes sortes de pressions et de combats, et que nous passons par une vallée, est-ce que nous sommes vaincus d'avance? Est-ce que nous sommes seulement heureux et en bonne santé spirituelle à l'approche ou durant la réunion, et qu'entre les réunions, nous sommes des chrétiens tristes et vaincus ou mondains. Notre Dieu est un Dieu de montagne, il est aussi le Dieu des plaines. Et des plaines, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Et elles sont diverses. Tout comme nos circonstances dans la vie de tous les jours sont diverses, nous avons à traverser des plaines qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a qui sont vastes, étendues, ouvertes. Il y en a qui sont étroites, profondes. Mais notre Dieu se trouve là aussi pour nous donner des victoires. Et il y a une première vallée que j'aimerais mentionner, la vallée d'Ela. C'est une vallée où il y avait un géant qui s'appelait Goliath. Et dans cette vallée, le jeune David a vaincu le géant qui tenait le peuple de Dieu dans la crainte. Et voilà une première vallée qui nous parle de la victoire du Seigneur Jésus même. Parce que le Seigneur Jésus, il est ce Dieu très haut, on pourrait dire. Il est ce Dieu des montagnes. Le Seigneur Jésus lui-même, celui par qui, pour qui toutes choses ont été créées, celui qui détient la vie et l'incorruptibilité, celui qui vit dans la lumière éternelle du ciel. Et en même temps, il est ce Dieu qui est venu comme homme pour traverser des vallées. Et c'est dans une vallée que le Seigneur Jésus a vaincu Satan, l'ennemi. C'est en venant en faiblesse, en apparence de faiblesse, dans ce monde, dans une forme humaine, en donnant sa vie sur la croix, qu'il a vaincu celui qui paraissait comme être un géant. Et vous voyez, c'est notre Dieu des vallées, c'est un Dieu des vallées. Il y a cette première vallée d'Ela, où nous voyons que la victoire est garantie sur l'ennemi, sur celui qui nous terrifiait. Après, il y a d'autres vallées dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup. Il y a la vallée, au psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Et dans notre vie chrétienne, nous passons parfois par des vallées qui sont sombres. C'est une vallée très encaissée, c'est une vallée profonde. Peut-être que l'ouverture sur le ciel est très petite, on ne voit pas beaucoup de lumière. On voit surtout de la terre qui nous entoure, tout ce qui est de la terre. Et pourtant, il dit, lorsque je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Notre Dieu va jusque-là. Et nous pensons à certains exemples dans la parole de Dieu, par exemple l'apôtre Paul, lorsqu'il est en prison. Voilà une vallée de l'ombre de la mort, prête à être condamnée pour être mise à mort. Son horizon, c'est peut-être juste une fenêtre de prison avec des barreaux, la seule lumière qu'il peut voir à l'extérieur. Et pourtant, ce soir-là, cette nuit-là, le Seigneur se tient auprès de lui. Il lui dit « Aie bon courage ». Vous voyez, des vallées comme ça. Eh bien, il y en a d'autres. Il y a la vallée, on va peut-être lire dans le psaume, au psaume 84. Nous lirons à partir du verset 5. « Bienheureux l'homme dont la force est en toi et ceux dont le cœur desquels sont les chemins frayés, passant par la vallée de Baca. Ils en font une fontaine. La pluie aussi la couvre de bénédictions. » Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion. La vallée de Baca. Si nous voyons la note, le petit i, la vallée des pleurs. Voilà, il y a peut-être des vallées, des circonstances dans notre vie, des creux où on pleure. Puis les pleurs dans la parole de Dieu, il y en a aussi. Mais on voit ici que bienheureux l'homme dont la force est en Dieu et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Les chemins frayés, ce sont les chemins que la parole nous enseigne. Ils ont été frayés, c'est-à-dire des chemins où le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, est déjà passé. Ta parole est une lumière à mon pied, une lumière sur mon sentier. Voilà des chemins frayés qui sont clairement ceux que Dieu nous demande de suivre. Ce ne sont pas toujours des chemins faciles, mais ils sont frayés. C'est-à-dire que nous savons où nous allons. Même s'il y a des vallées de pleurs à traverser, nous savons que nous allons vers le ciel. Nous allons vers la demeure, la maison de Dieu, la demeure éternelle. Et il est dit là, passant par la vallée des pleurs, ils en font une fontaine. Il y a une source. Il y a une source. Il y a du rafraîchissement au travers de cette vallée. La pluie aussi la couvre de bénédictions. Et chacun peut réfléchir à des moments dans sa vie où il y a des pleurs et en même temps il y a de la consolation, la consolation de la part de Dieu. Encore une fois, l'apôtre Paul, c'est le principe et la pensée qu'il exprime aux Corinthiens en disant que nous avons affaire à un Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Nous avons affaire à un Dieu de toute consolation qui nous rend capables de consoler ceux qui passent par les mêmes épreuves, parce que nous-mêmes, nous y sommes passés. En étant passés par des circonstances où nous avons reçu la consolation de la part de Dieu, nous avons été enrichis, nous avons été rafraîchis, consolés. Notre citerne, notre source a eu cette saveur, a eu cette pureté, a eu cet effet, cette vertu, non seulement de nous consoler personnellement, mais aussi de nous rendre capables d'être un canal de bénédiction pour les autres. C'est aussi la pensée du Seigneur Jésus en hébreu où il est dit « Il a été tenté en toutes choses et par cela même il est rendu capable de nous consoler ». Nous sommes consolés de savoir que le Seigneur Jésus est passé par toutes les épreuves que nous pourrions traverser sur la terre. Et lui, dans une mesure évidemment parfaite et infinie. Et donc, il est dit là, il a cette promesse, la pluie aussi la couvre de bénédictions. Il marche de force en force et il paraît devant Dieu en Sion. Et c'est même une promesse qui est faite par le Seigneur Jésus en Matthieu 5, « Bienheureux ceux qui mènent deuil, car ce sont eux qui recevront la consolation. » Mener deuil, ça veut dire, dans ce contexte-là, être triste de voir la désolation qu'il y a dans le monde, les conséquences du péché, les conséquences de l'injustice. Ça, c'est mener deuil. Être triste de constater que même dans la chrétienté, il y a de l'injustice. Que même dans la chrétienté, on ne donne pas la première place au Seigneur Jésus. Ça, c'est la première forme d'injustice. Eh bien, ceux qui sont attristés de constater ces choses dans le monde, ils recevront la consolation de la part de Dieu même. Ils paraîtront devant la face de Dieu. Alors voilà, des vallées, et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, différentes circonstances de la vie. Mais pour en revenir à ce passage que nous avons lu dans 1 Roi 20, eh bien Dieu a donné une victoire, une deuxième victoire, non pas seulement sur la montagne, mais aussi dans la vallée, contre ce roi de Syrie. Et Dieu a donné cette victoire Et il a donné la possibilité au roi Akab de finir le travail. C'est-à-dire, Dieu a donné au roi Akab la responsabilité de mettre ce roi syrien à mort. Et ça, c'est une leçon très importante pour chacun d'entre nous. Donc d'abord, la première leçon, je répète, c'est que nous ne devons pas segmenter notre vie en disant « Dieu va me donner des victoires dans ce segment de ma vie et pas dans cet autre segment ». Dieu donne des victoires dans tous les domaines de notre vie, personnel, familial, professionnel, etc., etc. Parce que peut-être qu'on aurait tendance de croire « bon, Dieu va m'aider dans ma vie personnelle ou dans ma vie d'assemblée, mais dans ma vie professionnelle, c'est un segment où Dieu n'intervient pas ». C'est faux. Il est le Dieu de tous les segments de notre vie, de toutes les vallées. Et donc ici, une autre leçon spirituelle à tirer, c'est que Dieu donne la victoire. Il accomplit tout ce qu'il faut, mais ensuite il faut qu'il y ait le désir dans notre cœur de bénéficier de cette victoire pour mettre les choses en ordre dans notre propre vie, pour retourner à Dieu, pour mettre de côté notre mondanité et pour devenir spirituel, reconnaissant à Dieu et dépendant de Dieu. Et nous voyons que malgré ces interventions de Dieu pour régler cette question de cette mondanité environnante du roi Akab, eh bien, quand, au travers de ses serviteurs, intercède pour sa vie, eh bien, Akab, qu'est-ce qu'il répond ? Quelque chose de très triste. Il est mon frère. Et voilà un homme du peuple de Dieu qui estime qu'un idolâtre, étranger, c'est son frère. Vous voyez, il a plus d'affinité avec cet homme qui est venu pour le tuer même, avec une armée en grand nombre. Il estime, il est mon frère. Est-ce qu'on estime les gens du monde comme étant plus proches ? Avons-nous plus d'affinité avec les gens du monde qu'avec nos véritables frères, ou frères et sœurs, ou qu'avec le Seigneur ? Il est mon frère. Et il le laisse partir, il le laisse même remonter sur son char. Il lui rend l'honneur aux yeux du monde qui lui appartenait. Et il fait une alliance. Il fit une alliance avec lui. Et on voit que, de nouveau, il se mêle. Il lui donne des villes, il lui rend des villes. On fait un accord, on se mélange au monde alors que Dieu vient de donner une victoire éclatante pour enfin devenir séparé du monde. Eh bien, tout de suite, ce pauvre Akab, je dis pauvre d'un point de vue spirituel, se remet en alliance et s'interconnecte avec le monde qui lui a voulu du mal. Et Dieu va lui reprocher cela. Au verset 42, « Ainsi dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre les mains l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera pour sa vie et ton peuple pour son peuple. » Et nous voyons là que malgré l'intervention de Dieu et sa grâce, et malgré le fait que Dieu a tout préparé pour donner au roi Akab une victoire, eh bien, cette victoire, on pourrait dire, elle tombe à l'eau, parce que le cœur du roi Akab n'a pas changé. Il est toujours tourné vers le monde, vers les biens du monde et vers les gens du monde, au lieu de se tourner vers Dieu. Alors que cela nous serve aussi d'avertissement, toute amitié du monde est inimitié contre Dieu. Et Dieu nous donne des occasions, même si nous ne les méritons pas, de nous dégager du monde pour nous tourner vers lui, pour nous soumettre à lui. Qu'en faisons-nous ? Est-ce que nous saisissons ces occasions pour mettre les choses en ordre dans notre vie ? Ou est-ce que tout de suite après une victoire, nous retournons facilement aux choses du monde et dans les mêmes travers. Nous avons la réunion le dimanche, peut-être, et le lundi. Est-ce que nous sommes de nouveau mondains, comme si nous n'avions pas été à la réunion le dimanche ? Une question que je pose à chacun, et que le Seigneur nous aide à être cohérents et fidèles à sa parole.